Nous allons poursuivre par notre sujet principal. Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir Henri Verdier, ambassadeur pour le numérique. Bonjour Henri.
Bonjour.
Alors si vous souhaitez participer à cette conversation, réagir, poser une question, rendez-vous sur le salon web dédié à l'émission, donc sur le site causecommune.fm, bouton chat, et salon dièse libre à vous. Je surveille le salon et je relayerai les questions éventuellement ou vos remarques. Alors, ambassadeur pour le numérique. Selon Wikipédia, un ambassadeur est un représentant d'un État auprès d'un autre, ou parfois auprès d'une organisation internationale. C'est le rang le plus haut au sein de la hiérarchie diplomatique. On connaît depuis longtemps cette fonction auprès des États étrangers, mais un ambassadeur pour le numérique, c'est plus récent et sans doute ses missions ne vous sont pas connues, chers auditeurs et auditrices. Donc, notre invité Henri Verdier va vous faire connaître ce rôle d'ambassadeur, ses missions, mais aussi, on va parler, et beaucoup, de logiciels libres, de données publiques, car Henri Verdier, dans son parcours, a été notamment ancien directeur interministériel du numérique et du système d'information de communication de l'État, donc beaucoup de choses. Alors première question, pour en savoir un peu plus sur vous Henri, petite présentation de votre parcours personnel.
C'est un parcours qui suit un peu l'histoire du numérique, puisque en 1995, je menais des études qui me prédisposaient à enseigner, et puis je suis tombé un peu par hasard sur Internet, et on a créé avec des amis, dont Xavier Lazarus, qui est devenu le fondateur d'Elia Partners, un bon VC français, dont Fred Potter.
Un VC, c'est un venture capital, voilà. Donc un capital risqueur.
Dont Fred Potter, qui a contribué largement à la conception de la Freebox et puis qui a créé Netatmo plus tard. On a créé une sorte de web agency en 95, donc il y avait 15 000 internautes en France. C'était un peu confiant dans le futur. Et puis en 99, on l'a transformé en entreprise qui faisait de l'éducation numérique avec Audi Jacob, qui a pris le contrôle de la boîte et qui nous a financé. On a travaillé avec Sharpack sur une magnifique pédagogie qui s'appelait La Main à la Pâte.
La Main à la Pâte, oui.
C'était passionnant, la tentative d'amener de l'innovation numérique, de la personnalisation, de l'interactivité, de l'ouverture vers l'extérieur dans l'école. Et puis, c'est juste que le marché de l'éducation numérique dans l'école, il n'a pas beaucoup décollé pendant ces années-là. Donc, on a arrêté en 2007. J'ai créé quelques autres boîtes, dont une sur ce qu'on appelait ça les big data à l'époque, en 2010. Et puis j'avais quand même un goût de l'action collective, donc avec des amis on a créé un pôle de compétitivité qui s'appelle Cap Digital, qui est une belle partie de ma vie.
En Ile-de-France.
Donc c'était le pôle des industries de création culturelle en Ile-de-France. Il y avait des robots, il y avait des jeux vidéo, il y avait des effets spéciaux pour le cinéma, il y avait des web services dans tous les sens. Aujourd'hui Cap Digital a plus de 1000 startups, 250 labos publics et privés de recherche et 25 grands groupes, et on avait lancé un très beau festival qui s'appelait Futur en scène, qui a eu un peu plus de mal quand il a dû faire face à... vous voyez, j'oublie même le nom, à celui de Publicis, là.
Je ne me souviens pas.
Qui a lieu tous les ans en juillet, mais qui existe encore un peu dans un format un peu plus réduit. Et puis en 2013, on m'a proposé de rejoindre l'État, ce qui a été un moment de grand bonheur. D'abord pour conduire la politique d'ouverture des données publiques, d'open data, à la tête de la mission Etalab. Mais très vite, on a ouvert les données publiques, et puis le code, et puis le code source des modèles avec OpenFISCA et des choses comme ça. Et puis en 2015, on m'a proposé de diriger la direction interministérielle du numérique et du SI de l'État. Où là, j'ai essayé de porter à la fois le libre, les méthodes agiles, les stratégies fondées sur la donnée, l'ouverture aux écosystèmes. Et il y a 2 ans, on m'a proposé de conduire la diplomatie numérique française en devenant ambassadeur pour les affaires numériques.
D'accord, c'est une présentation effectivement parfaite, parce qu'on voit bien ce passage de rôle d'entrepreneur au fonctionnaire de l'État. Vous avez parlé de la DINSIC, donc la Direction Interministérielle du Numérique et des Systèmes d'Information et de Communication de l'État, et de votre rôle autour de l'UCHALI Méthode Agile. On va y revenir dans la deuxième partie de l'émission, parce qu'évidemment, c'est ce qui nous intéresse le plus. Mais en même temps, ce qui nous intéresse aussi, c'est ce rôle d'ambassadeur pour le numérique, parce que bon, c'est sans doute relativement récent, mais vous allez nous le dire. Mais surtout, la question, quand on a évoqué ce sujet, les gens nous ont dit, mais c'est... pourquoi un ambassadeur pour le numérique ? Et c'est quoi un ambassadeur pour le numérique ? C'est quoi les missions ?
Mais peut-être que la deuxième partie vous intéresse plus parce que vous ne connaissez pas encore la première. En fait, les gens ne réalisent peut-être pas à quel point le destin des États et le destin donc des relations internationales est maintenant déterminé par la révolution numérique et à quel point, en retour, les États s'emploient à déterminer l'avenir du numérique. On ne réalise pas, mais dès qu'on pense 5 minutes, on réalise que la prochaine guerre commencera peut-être par une cyberattaque, que la maîtrise de l'intelligence artificielle est clairement devenue un enjeu dans des rapports de puissance, que le conflit, la tech war entre la Chine et les États-Unis...
Donc la guerre technologique.
Oui, mais je les cite eux, puisque justement la France récuse l'idée qu'il y aurait une guerre technologique. Cette guerre technologique entre la Chine et les États-Unis détermine largement le futur de l'Europe, que On ne peut pas envisager l'aide au développement de l'Afrique sans penser à ses infrastructures logicielles, qu'on ne peut pas défendre sérieusement la francophonie si on n'a pas un regard sur ce qui se passe sur la toile. Et donc, vous voyez qu'il y a de très nombreux enjeux de géopolitique qui sont du ressort de la diplomatie et qui ont un rapport avec le numérique. Et il y avait une diplomatie numérique bien avant qu'on la formalise dans le rôle d'un ambassadeur pour le numérique, puisque la France a un siège à l'Internet Governance Forum, a un siège à l'ICANN, plaide à l'OCDE pour une fiscalité pour le numérique. Et donc, pour commencer, je pourrais dire que l'ambassadeur pour les affaires numériques, il est celui qui représente la France dans ces négociations-là.
C'est-à-dire qu'il y avait déjà effectivement des négociations et des personnes qui agissaient, mais là, il y a eu besoin d'un rôle spécifique d'ambassadeur avec un statut d'ambassadeur.
Voilà, donc à la fois pour deux raisons. Vous avez rappelé que l'ambassadeur, c'est aussi le titre de celui qui souvent est plénipotentiaire, c'est-à-dire il vient présenter son pays avec le mandat de négocier. Et si vous n'êtes pas ambassadeur, en général, vous n'êtes pas plénipotentiaire. Et puis, il y avait le fait que, au fond, ces sujets étaient éparpillés au sein du ministère des Affaires étrangères. Quand je suis arrivé, j'ai commencé par faire une sorte de carte des gens qui traitaient de sujets numériques au Quai d'Orsay, et j'en ai trouvé plus de 50 un peu partout. Je sais pas, il y a ceux qui ont inventé les visas start-up pour les entrepreneurs qui veulent investir en France, il y a ceux qui travaillent sur la fiscalité, enfin tout ce que je viens d'énumérer. Et donc, le fait que ce soit maintenant porté par un ambassadeur permet d'unifier toutes ces forces dispersées, puisque ce ne sont pas mes équipes, mais je peux leur donner des mandats ou les interopérer parce que j'ai le titre d'ambassadeur.
Donc, j'ai une petite question avant que vous reveniez sur le détail de l'émission. Vous parlez du Quai d'Orsay parce que, évidemment, en tant qu'ambassadeur, vous dépendez du Quai d'Orsay. Mais dans les négociations internationales autour du numérique, de l'informatique depuis très longtemps, il y a un autre ministère qui joue un rôle important et souvent en défaveur, on va dire, des libertés et des droits des personnes. C'est le ministère de la Culture. Donc, est-ce que vous unifiez aussi ces personnes qui travaillent au ministère de la Culture ou c'est vraiment spécifique Quai d'Orsay?
L'État est sérieux et la France est d'ailleurs assez solide sur l'interministériel, donc on part avec des mandats. Quand on touche aux intérêts d'autres ministères, je ne m'attendais pas à ce que vous disiez la culture.
Historiquement, la culture en France a toujours poussé
non, mais
pour l'extension.
Absolument. Enfin, comme beaucoup de gens, je me suis éveillé à la conscience de la technopolitique dans les controverses autour d'Adopi.
Et de la loi droit d'auteur en 2006 avant aussi.
Voilà.
Les 2000.
Il a changé. Enfin, franchement, sur un certain nombre de sujets aujourd'hui, on peut aussi considérer que le ministère de la Culture se vit comme le ministère de la liberté d'expression et qu'il a quelque chose à dire sur la liberté d'expression et qu'il le fait. Non, en général, effectivement, quand on part, il y a des questions qui sont clairement Quai d'Orsay et il y a des questions qui sont arbitrées avec, par exemple, le ministère de l'Intérieur, avec, par exemple, le ministère des Affaires de l'Économie et des Finances, ou avec le ministère de la Culture.
Donc de l'interministériel.
Donc souvent, on a d'abord une phase de validation interministérielle, oui, bien sûr.
D'accord. Et alors, une question de date, est-ce que vous êtes le premier ambassadeur pour le numérique, ou est-ce qu'il y en a eu d'autres avant ça date, cette fonction?
Je crois que l'apparition de l'expression, enfin, ils avaient dit tech ambassador, effectivement, c'est les Danois, qui n'avaient pas pensé tout à fait la même chose comme nous, qui avaient dit les big tech, les GAFA, comme on dit souvent en France, ont un tel poids sur notre destin, que nous allons ouvrir une représentation permanente à San Francisco, et nous aurons un ambassadeur, en tout cas c'était un vrai diplomate, pour parler avec ces entreprises.
Casper Klinge.
Voilà, Casper Klinge, qui a rejoint Microsoft.
J'allais vous faire un quiz, mais bon, on voit quand même le professionnel qui avait bien préparé.
J'ai bien connu Casper.
Donc on va juste préciser pour que les gens comprennent bien que là, c'est l'inverse dont on parle, c'est qu'en 2017, le Danemark nomme un ambassadeur auprès de ce qu'on appelle les GAFA,
oui,
les géants du net.
Oui, auprès, parce qu'il n'y a pas de lettre de
Non, il n'y a pas de lettre, en tout cas, bon. Voilà, et qu'aujourd'hui, donc depuis mars 2020, il est vice-président en charge des affaires publiques pour Microsoft Europe, donc il a rejoint le M des GAFAM.
Ce qui est amusant, c'est que quand j'ai rejoint le Quai d'Orsay, j'ai découvert que les gens restaient en général ambassadeurs 3 ans et puis changeaient de pays, et qu'on disait, si tu restes plus de 3 ans dans le même poste, tu vas devenir trop proche du pays que tu es chargé de traiter. Donc peut-être que Casper est resté trop longtemps en poste. 6 mois plus tard, la France a créé l'ambassadeur pour le numérique. Le premier, c'était David Martinon.
Donc en 2017.
La même année, mais 6 mois
David
plus
Martinon.
Tard. Donc, et nous, on ne l'a jamais positionné comme quelqu'un qui représentait l'État vers une puissance qui serait les entreprises. C'était pour aller à l'ICANN.
Oui, dans les organismes internationaux, c'est pas la même chose que le Danemark.
Parce que peut-être ce que je vous ai pas dit, donc je vous ai expliqué à quel point il y a du numérique dans la géopolitique et vice-versa. Donc globalement, aujourd'hui, le périmètre de l'ambassadeur pour le numérique, je le présente souvent comme une espèce de boussole avec 4 flèches. On a des grands sujets autour de la sécurité. Autour de la sécurité, il y a la cybersécurité. Et là, c'est clairement un sujet de droit de la guerre. Hein. Enfin, nous, on dit droit humanitaire, mais c'est droit de la guerre. Donc, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, comment on contrôle, c'est du droit international. Et puis, il y a des sujets de sécurité sur les contenus. Et là, la discussion internationale sur comment faire face aux... Alors, Il y a un vaste spectre.
C'est-à-dire, vous parlez de la régulation des contenus ?
On a un mot à dire sur régulation des contenus. Okay. Quand ça touche les ingérences étrangères dans les élections, quand ça touche la régulation de la haine... la haine, enfin, souvent, le Quai d'Orsay, finalement, se retrouve quand même dans les dossiers. Parce que tant qu'ils sont en France, on n'a rien à dire, mais ensuite on essaie d'en faire des textes européens, et on arrive là dans le dialogue européen.
Oui, d'ailleurs, ça n'a pas trop bien réussi à ce gouvernement récemment, mais on ne va pas aborder ce sujet en détail.
On va pas aborder ce sujet. Ou ça lui est bien réussi, je ne sais pas. Donc, on a des sujets de sécurité, des infrastructures et des contenus qui sont là, souvent avec des gens très régaliens, dans lesquels on croise des militaires, des services, etc. On a des sujets de gouvernance Internet. Donc, on tient le siège à l'ICANN, par exemple.
Alors, rappelez juste ce que c'est que l'ICANN pour les gens qui nous écoutent.
L'ICANN, c'est l'International Association...
Assigning Number, c'est la... qui gère notamment
Les attributions de noms de domaine.
De noms de domaine, etc. Voilà.
Voilà. Et donc... L'an dernier, par exemple, on a mené un combat dont je suis assez fier, pour tout dire, puisque on a failli assister à la privatisation subreptice du .org.
Ah oui, la vente du .org.
Ouais, qui aurait été vendue à un fonds d'investissement.
Comment il s'appelle déjà ce fonds?
Ethos Capital.
Ah, Ethos Capital, oui.
Lui-même fondé par l'ancien directeur général de l'ICANN, qui venait de faire voter par son board, malgré l'avis négatif de tous les adhérents, le fait qu'il allait se vendre à lui-même le .org. Et je peux dire que, bien sûr, il y a des...
Donc vous avez agi là-dessus?
Ah, plus que ça. D'accord. On est clairement le premier pays qui a... En tant que pays, parce qu'avant nous, bien sûr, l'Electronic Frontier Foundation.
Oui, on avait co-signé la lettre de l'Electronic Frontier Foundation.
Avait
mobilisé.
Manifesté leur désaccord. Mais le premier pays qui a battu le rappel en disant nous n'acceptons pas, c'est inacceptable, etc., c'est la France qui ensuite a entraîné l'Allemagne, l'Europe. Mais la vérité qui est vexante pour vous et pour moi, c'est que c'est probablement la tournée générale de Californie qui a raclé la querelle en disant si vous faites ça, je vous referai payer les 20 ans d'impôts auxquels vous avez échappé parce que vous étiez non-for-profit. Cela dit, on a au moins l'honneur d'avoir sonné la charge et dit que les États se préoccupaient de l'intérêt général. Donc, sécurité,
donc gouvernance de l'Internet, deuxième point.
De la diplomatie économique, comme la question de la fiscalité pour les affaires numériques, qui bien sûr est d'abord portée par Bercy, mais on suit de très près et dans un dialogue constant avec Bercy. Et puis, ne l'oubliez pas, la France a quand même une vraie grande diplomatie de valeur. La France, elle défend l'accès à l'éducation, l'accès à la culture, le développement des pays émergents, la liberté d'expression, la liberté de la presse. Puisque je vous sens taquin, vous allez dire...
Y compris Gérald Darmanin ?
Voilà, vous allez dire... Après, vous allez me dire, au moins à l'étranger, vous nous défendez. Mais aujourd'hui, on ne peut plus penser tout ça sans le penser à travers le numérique. Donc en fait, il y a énormément de sujets numériques dans l'accompagnement de la transition numérique de ces politiques publiques-là. Quoi. Et donc l'ambassadeur pour les affaires numériques, il supervise tout ça, il harmonise tout ça, et il met en mouvement des forces qui sont un peu partout au sein du Quai d'Orsay.
Et il y a la langue française, que vous avez parlé en introduction.
Par exemple, on a fait cet hiver, par exemple, moi j'étais très fier, on a donné un coup de pouce, et pour le coup... bête et méchant, on s'est retroussé les manches et on a aidé. Avec l'OIF, on a...
Alors l'OIF...
L'Organisation Internationale de la Francophonie.
Voilà.
Vous aussi, vous avez vos sigles. Hein.
Oui, mais les personnes qui écoutent ne connaissent pas forcément tous les sigles.
D'accord. On s'est rendu compte que l'Afrique aussi allait devoir faire face à sa crise du Covid, qu'elle avait des États parfois moins structurés et qu'elle allait avoir des systèmes de santé encore plus à plaindre que les nôtres, et qu'elle a quand même des innovateurs, des entrepreneurs, des Fab Labs, etc. Et on a fait naître un mouvement tout bêtement en utilisant Slack, hein, mais nous on a servi...
Alors Slack, c'est un environnement propriétaire de travail collaboratif, on va dire. Un truc moins bien que les outils libres qui existent.
Il se trouve qu'ils sont partis sur Slack. À la fin, on a fait vivre ce réseau de plus de 6000 innovateurs africains qui, un peu partout, fabriquaient des masques, des respirateurs artificiels, des petits guides de bonnes pratiques sanitaires, et qui s'entraidaient, et qui se passaient des tips et des tuyaux, et des ressources. Et là, on a juste servi de véhicule pour aider à cristalliser un mouvement dont l'énergie venait d'Afrique. Et c'était un très beau moment de travail diplomatique.
D'accord. Alors, sur le salon web, je vois une question que je vais la lire telle quelle. Parce qu'elle est assez... On semble noter à travers différents projets législatifs une tendance à déléguer une partie du pouvoir régalien aux grandes plateformes. On peut aussi penser à la tentative de la proposition de loi Avia, donc sur la régulation de la haine, de déléguer la sanction des propos haineux, ou la directive droit d'auteur, donc ministère de la Culture, le contrôle de la licéité des partages d'œuvres par les internautes aux GAFAM. Partagez-vous ce constat? Quelle est votre lecture de cet enjeu?
Ma lecture de cet enjeu, c'est que on a plutôt été toujours défavorables à ce genre de logique, puisque l'état de droit, ça commence par les règles de base de l'état de droit, et c'est dans la démocratie que doivent se prendre les sanctions. Cela étant rappelé, pour répondre à la question en la montant à une certaine portée théorique. Premièrement, il y a 15 ans, 20 ans, je ne sais plus, on a eu des batailles homériques qui ont permis d'établir l'idée qu'il y avait un statut de l'hébergeur avec sa neutralité. Et un statut
de... Donc c'est la loi la directive européenne de 2000 et la loi pour la confiance pour l'économie numérique de 2004.
Bravo, vous êtes plus calé que moi.
Qui va bientôt être revue, sans doute.
Donc on avait l'hébergeur, et c'était et heureusement que sinon on n'aurait sans doute pas eu la révolution Internet, qu'on a rappelé qu'il était neutre au contenu et neutre à la responsabilité sur les contenus, et l'éditeur qui prenait la responsabilité sur les contenus. Et on a vu arriver un business qui s'est faufilé entre les deux, qui dit « c'est pas moi qui ai écrit les contenus », mais qui vit réellement de la nature des contenus, puisque son placement publicitaire dépend de la nature
des contenus. Donc là, vous parlez de Facebook et compagnie.
C'est le business de la plupart des réseaux sociaux, qui en plus... par la publicité personnalisée et la personnalisation du contenu et le croisement des deux, a quand même un rôle de curateur, de vous l'appeler comme vous voulez. Et quelque part, moi, je pense qu'on ne tranchera cette querelle que quand on aura solidement construit le tiers statut.
Entre hébergeur et éditeur ?
Oui. Quand on aura compris quelle est la responsabilité précise et jusqu'où elle va, de celui qui certes n'a ni financé ni écrit les contenus, mais en a mis certains en avant et d'autres non, et a joué un rôle quand même dans leur présentation. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore clairement ce statut. On a commencé à le préparer dans la directive sur les retraits de contenus terroristes, qui est aussi un des sujets qu'on suit, mais ce n'est pas encore un consensus général. Et puis on a un deuxième problème, c'est que, vous voyez bien, Facebook par exemple se gargarise d'avoir mis 36 000 modérateurs... juste pour enlever ce qui contrevient à ces CGU, on va pas mettre...
Condition générale d'utilisation.
Oui, on va pas mettre... Alors même si vous dites la France c'est 1% de la population mondiale, mais on va pas mettre 360 gendarmes juste pour lire Facebook toute la journée, et autant sur Twitter, et autant sur TikTok, et autant sur Snap, et autant sur... Donc tout le monde cherche une solution scalable, en fait, qui passe l'échelle. À titre personnel, je trouve que ces approches, j'ai un devoir de réserve comme vous le savez, montrent en tout cas... une pensée pas assez numérique, c'est-à-dire que et notamment une absence de réflexion sur les dimensions systémiques, sur le fait que justement un combat sur la transparence des algorithmes de propagation des contenus, un débat public et collectif sur ce qu'on permet ou pas à ces algorithmes de sélection des contenus. Enfin, je pense que les réponses, on le voit par exemple dans la stratégie de Twitter qui commence à chercher des petits trucs qui vont freiner la viralité, quand vous avez remarqué.
Oui, par exemple, ils avaient changé récemment sur les retweets. Défaut, c'était il fallait mettre un commentaire.
Voilà. Et depuis quelques semaines, ils vous disent est-ce que tu es sûr que tu veux partager ce truc, tu l'as pas lu.
Ils rajoutent de la friction quelque part.
Voilà, ils mettent de la friction. Ils mettent absolument. Ça avait commencé avec WhatsApp qui a empêché qu'on forward à plus de 10 personnes à la fois un message reçu sur WhatsApp. Donc je pense que tout ça marque une insuffisance de pensée d'ingénieur, en fait, de pensée systémique. Mmh. Et pour conclure, parce que c'est une question et je suis sûr que vous en avez d'autres, mais il y a quand même un point très important. Ce que cherche quand même en vérité le secrétaire d'État au numérique, c'est quelque chose qui rappellerait un peu la régulation des banques. Parce que qu'est-ce qui se passe avec les banques ? On ne leur demande pas d'attraper tous les mafieux. On leur demande de répondre, elles ont des obligations de diligence. Elles doivent avoir suffisamment de data et prendre certaines sécurités elles-mêmes et être capables de transmettre les données aux autorités en cas de besoin. Et elles ne passent pas à les mêmes autorités, à un juge d'instruction qui cherche un criminel, à Tracfin
la partie financière.
Tracfin qui cherche de la gros système de délinquance ou à l'administration fiscale. Et donc, tout le monde cherche en ce moment à définir quel sera le devoir de diligence qui sera imposé à ces entreprises pour que les autorités puissent faire leur travail. Donc, je fais partie de ceux qui pensent qu'on leur avait délégué trop de pouvoir d'appréciation, plus une incitation à surcensurer. Donc je n'étais pas confortable, et je l'avais dit, dans la loi Avia, mais il faut bien comprendre que tant qu'on n'aura pas ce tiers statut, une pensée d'un système qui ne soit pas intrinsèquement pervers et une claire idée des obligations de diligence de ces entreprises, on n'aura pas de bonne solution.
D'accord. Alors, on reviendra sans doute sur ce sujet, pas aujourd'hui, mais peut-être dans une autre émission et avec d'autres personnes, parce que c'est un sujet évidemment complexe et qui va occuper au niveau européen, au niveau français. Peut-être qu'on aura une loi numérique de ce gouvernement ou du prochain, je ne sais pas. J'ai une question d'ailleurs. Je reviens sur l'ambassadeur pour le numérique. Quand vous êtes nommé pas pour une durée précise.
Non, ça c'est comme directeur interministériel, c'est nommé en conseil des ministres et révocable tous les mercredis.
C'est-à-dire que si le secrétaire d'État de numérique change, vous pouvez changer.
Non, parce que moi je dépends et je réponds au ministre des Affaires étrangères.
Oui, je faisais référence à autre chose, mais bon. Alors il y a des gens qui sont très taquins sur le salon web. Je rappelle que vous pouvez nous rejoindre direct, causecommune.fm, bouton de chat, salon, dièse libre à vous. Marie Odile qui dit tirons au sort 35 citoyens qui vont décider. Bon, c'est très taquin, mais cette solution du tirage au sort n'est pas sans démérite dans dans d'autres contextes. Mais on va revenir quand même sur notre sujet parce que le temps file vite. Donc on a bien compris le rôle d'ambassadeur pour le numérique. Vous avez parlé un petit peu de certaines choses que vous avez faites. Est-ce que vous auriez, mais rapidement, cité peut-être, si c'est, on l'a pas encore fait, un ou deux résultats vraiment que vous avez obtenus depuis 2018. On a parlé de le point org. On a parlé effectivement de ce qui s'est passé en Afrique. Est-ce que vous voulez citer un autre exemple ou deux?
Oui, alors, mais après, c'est, la diplomatie, c'est un sport collectif et d'influence, donc les résultats spectaculaires, c'est, à la limite, on pourrait presque dire que c'est la preuve d'un échec diplomatique.
Quand ça se voit
on
pas,
a quand même réussi à, malgré une opposition très forte de la précédente administration américaine, à construire le partenariat mondial pour l'intelligence artificielle pour créer un
cadre. La précédente, celle de Donald Trump, vous dites.
Oui. Pour créer un cadre international de réflexion sur la régulation et l'éthique de l'intelligence artificielle. Mais moi, je trouve qu'effectivement, le plus important, c'est que, on imbibe à la fois les diplomates d'une certaine pensée du numérique. J'ai dû faire lire l'article de Lessig sur le code.
Alors, Isabelle. Laurence Lessig, l'article préféré de mon collègue Étienne Gonu.
Voilà, d'ailleurs, en général, on tombe sur le Framablog quand on le recommande. Donc, j'ai dû le faire lire des centaines de fois. Mais c'est important de dire qu'il y a des batailles qui se jouent dans les infrastructures. Vous avez peut-être vu que, par exemple, en ce moment, Huawei propose à l'Union internationale des télécommunications un nouveau protocole TCP/IP. Beaucoup mieux, parce qu'il est beaucoup plus stable et beaucoup plus centralisé et beaucoup plus facile à réparer. Si jamais des gens en abusent. Donc je pense qu'on diffuse. Le plus important, c'est qu'on est en train de diffuser l'idée qu'il y a de la tech dans la diplo, et en retour, d'essayer de diffuser que dans la régulation de la tech, les communs, l'ouverture, la société civile, etc., ça fait partie de la solution et qu'on ne doit pas penser la régulation de la tech comme celle de l'aérospatiale.
D'accord. Dernière question sur cette partie-là. Vous avez parlé d'une équipe tout à l'heure. Vous êtes secondé par une équipe de combien de personnes ?
Donc nous, on a une petite équipe de 3 personnes qui me servent, qui fonctionne un peu comme un cabinet autour d'un ministre, mais qui m'aide du coup à mettre en mouvement la 50aine de personnes dont j'ai parlé, qui ont chacun leur propre directeur. Hein. Et puis j'ai pu quand même ramasser 3 francs 6 sous et lancer une de ces startups d'État. Format que j'avais inventé à la DINZIC. Et donc, il y a une petite équipe de devs...
De développeurs
agiles et full stack.
Expliquez full stack, là.
C'est pas à moi de l'expliquer ici, c'est à vous.
C'est vous l'intervenant. Moi, je connais rien, moi, à ces sujets.
Donc, une petite équipe de développeurs, comme on les aime, qui notamment travaille sur... par exemple, pour citer une des choses qu'on a fait, vous pouvez le retrouver sur le site 10info.quaidorcy.fr. On fait un outil qui aspire toutes les CGU d'une 50aine de grandes entreprises du numérique et qui traque les diffs. Parce que vous
les
avez remarqué
que
non seulement ces conditions générales d'utilisation sont plus longues que Cyrano de Bergerac, en nombre de mots, mais en plus, elles changent tous les 15 jours et sans qu'on vous notifie qu'elles viennent de changer. Et nous, ça nous permet de réhistoriciser... ces changements et de voir s'ils nous ont pipoté dans la négociation ou pas, de voir comment ils réagissent à une crise comme le Covid, à une nouvelle loi qu'on vient de passer, etc. Et de mieux négocier avec eux parce qu'on les met devant leur responsabilité. Naturellement, c'est un logiciel libre. Vous pouvez en prendre le code source sur GitHub. Oui, je sais.
On va en parler après. Non, on va en parler après.
Mais on avait notre compte avant que ce soit Microsoft. et bien sûr, on essaie de faire naître une communauté de contributeurs qui eux-mêmes ramènent leurs archives, leurs observations, et tout ce qu'ils ont pu aspirer depuis le temps dans d'innombrables entreprises du numérique.
D'accord. Alors GitHub, c'est pas le problème, c'est pas que ça appartient à Microsoft. C'était déjà un environnement privateur sur Git, mais on va en parler après justement. Et donc, on va faire une petite pause justement. Entre la première partie, donc la découverte de ce rôle d'ambassadeur du numérique et d'Henri Verdier. J'ai bien vu les questions sur le salon web, notamment c'est quoi la définition des commandes. On va en parler après la pause musicale, justement. Et donc, on va faire une petite pause musicale. On va continuer par la découverte de cet artiste, donc Guy Frog. On va écouter Tormenta. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
Nous venons d'écouter Tormenta par Guifrog, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, CC BY. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org, et sur le site de la radio causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 et en DAB+ en Ile-de-France, partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous continuons notre discussion avec Henri Verdier, ambassadeur pour le numérique. Donc là, on va passer au deuxième grand thème de l'émission, après avoir bien compris le rôle de l'ambassadeur pour le numérique. On va parler un peu de sujets qui nous intéressent au plus haut point dans cette émission, hein, logiciels libres, données publiques et autres. Et on va revenir un peu aussi sur votre passage à la direction informatique de l'État. On va parler aussi du rapport Botorel qui vient d'être publié. Mais déjà, première question, alors je vais la faire en deux fois. Sur le salon web, donc je rappelle causecommune.fm, bouton de chat, salon dièse libre à vous. Il y avait une question, c'était quoi votre définition des communs ? Et je vais la compléter par... j'écoutais donc en octobre 2020 votre audition par la mission d'information Bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne, et vous avez notamment développé l'idée que si l'idée c'est l'autonomie des ressources sur lesquelles on innove, il est bon, il est souhaitable d'avoir une industrie européenne, mais aussi on peut aussi jouer des stratégies avec les communs numériques, avec le logiciel libre. OpenStreetMap, Wikipédia. Nous plaidons pour que cela entre dans une stratégie de souveraineté. Vous avez aussi cité l'exemple de l'Agence française du développement, de l'AFD, qui développe des partenariats publics communs. Donc première question pour vous, c'est quoi les communs, c'est quoi les communs numériques et quelle est votre position logiciel libre, données publiques ?
Ah, ça fait 17 questions, ça.
Ouais.
Bon, sur les communs, d'abord, je sais parfaitement que dans les communautés du libre, on peut avoir des controverses de définition et que on peut se coller des étiquettes, etc. Le sujet m'a assez passionné et je peux renvoyer, si les auditeurs s'intéressent, j'avais contribué un article à la revue Esprit, tout entier sur les communs et l'économie politique. Moi, je vais prendre une définition très simple, c'est ce qu'on fabrique et qu'on gouverne en commun. Donc pour moi, un commun, c'est pas seulement la nature de la propriété intellectuelle sur la ressource en question, parce qu'on peut être un libre qui n'est pas commun, en fait, parce qu'on est tout seul. Et si c'est fabriqué en commun, mais sans gouvernance en commun, etc. Donc, je sais pas, pour moi, oui, que ce soit Wikipédia, OpenStreetMap, OpenFoodFacts, enfin, on a quelques exemples de très grands communs contributifs. Et effectivement, c'est, comme l'a dit d'ailleurs Marie-Odile tout à l'heure, on voit bien qu'il y a quand même une sorte d'homothétie avec le rôle de la puissance publique qui est supposée travailler au nom du peuple souverain, au service de l'intérêt général, et que souvent, c'est des ressources qui nous donnent des leviers d'action. Ma position n'a pas d'intérêt, mais ce que nous avons essayé de faire sur l'open data et sur le libre, je vais juste dire, c'est intéressant parce qu'on voit bien que maintenant, tout le monde dit, faut ouvrir les données, faut ouvrir le code, c'est le même mouvement. Mais en fait, en 2013, quand j'ai rejoint l'État, c'était deux sujets très séparés, en fait. Moi, on m'a appelé, je l'ai rappelé, pour conduire la politique d'ouverture des données publiques, d'open data. Au fond, on conduisait cette politique, petit a, pour des raisons de transparence démocratique, parce que c'est notre constitution, hein. La société est en droit de demander compte à tout agent public de son administration, c'est nos droits de l'homme. Petit b, parce que ça pouvait être un stimulus économique, parce qu'il y a des gens qui ramassent ces données et qui inventent des services avec. Et petit c, enfin, en tout cas moi, j'ai rajouté que très souvent, le premier bénéficiaire de tout ça, c'était l'État lui-même, parce que le premier qui souffre des silos et des données inaccessibles, etc., demandait au gars, qui est un de mes amis, qui recevait tous les soirs le nombre de décès en EHPAD par SMS... C'est le démarrage de l'épidémie de Covid. Oui, bien sûr.
Ah oui.
Parce qu'on n'avait pas de système d'information qui avait prévu de partager cette information-là.
D'accord.
Avant qu'elle ne soit centralisée et rassemblée par l'INSEE, mais tout ça, ça faisait perdre 3 semaines. Quoi. Donc, l'efficacité de l'État, ça, c'était l'open data. Et puis, le libre, quand j'ai pris la tête d'État Lab, le portail data.gouv.fr, il coûtait 1 million par an. Il était fait par une grosse...
Alors, État Lab, c'était le service d'ouverture des données publiques,
voilà,
que vous avez dirigé.
Le portail data.gouv.fr.
Data.gouv.fr.
Ça coûtait 1 million par an, ce qui est quand même considérable pour un service web. Et il y avait une grosse... Alors, on disait SS2I à l'époque. Maintenant, on dit entreprise de services numériques. Et chaque fois que je voulais modifier un pouillet, on me disait « Ouh là là, attends, faut faire un bon de commande. » Et puis ça coûtait très cher. Et je trouvais juste insupportable de ne pas pouvoir réparer moi-même un truc qui n'allait pas, quoi. Et donc, au début, j'ai essayé d'introduire dans l'État le libre, plus pour des considérations d'autonomie stratégique, en fait, et de capacité d'action et de vitesse de réaction. Petit à petit, et c'est très bien, les deux sujets ont un peu convergé, et c'est très bien parce qu'effectivement, Marie-Odile a dit beaucoup de choses très justes. Par exemple, les États, ils servent l'intérêt général, donc ils peuvent facilement trouver des alliés, notamment, j'ai cité OpenStreetMap ou des gens comme ça. Les États, ils n'ont pas de concurrents, hein, personne ne pique de part de marché, donc ils peuvent facilement coopérer. Donc c'est un peu bête de faire un portail et que les Luxembourgeois fassent le leur, et les Belges fassent le leur, et les Allemands fassent le leur, et machin. Et c'est assez facile, en somme, de s'organiser et de mettre des développeurs d'accord, c'est plus facile que de mettre des diplomates d'accord. Et puis, j'y ai fait mention devant l'Assemblée, je pense que là, on en arrive à un point majeur maintenant où l'existence et la pérennité de commun, et donc oui, je mets le commun jusqu'au logiciel ou au jeu de données, est une condition de souveraineté. On parle sans cesse de souveraineté numérique. Certains croient encore que ça veut dire intégration verticale d'une filière industrielle nationale. Pour moi, c'est de nouveau la souveraineté, c'est juste la capacité d'agir, l'autonomie stratégique, la liberté d'avoir le choix.
Pour les États et pour les individus.
Pour tout le monde, en fait. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait, à travers la question de la souveraineté numérique, réaligner un peu mieux les droits individuels, les libertés fondamentales et la souveraineté des États, qui pourraient s'enchaîner au-dessus de la liberté individuelle pour pouvoir la protéger. Parce que là, ça va dans le même sens. Un truc idiot, 90% des applications dans nos smartphones, pas le vôtre sans doute, mais c'est la plupart des gens, tournent sur Google Maps. Ça veut dire que du jour au lendemain, Google peut changer ses tarifs.
Comme ils l'ont déjà fait.
Ils l'ont fait en juillet 2018, si je ne m'abuse, en multiplié par 100 le coût d'accès à l'API.
L'API, c'est l'interface de programmation pour se connecter à Google Maps.
Voilà. Ils pourraient très bien décider de placer, je ne sais pas quoi, la frontière du Sahara occidental en fonction des décisions de la diplomatie américaine et pas la diplomatie française. Or, on a une alternative qui s'appelle OpenStreetMap. Un pays dont l'économie s'appuie sur OpenStreetMap est plus souverain qu'un pays dont l'économie s'appuie sur Google Maps. Point barre.
Est-ce que vous pouvez juste rappeler ce qu'est OpenStreetMap?
OpenStreetMap, c'est une sorte de Google Maps fait par plus d'un million de contributeurs. C'est une sorte de Wikipédia de la carte, dans une licence libre, mais contaminante, hein, qui s'appelle l'ODBL.
Donc, persistante.
Share-alike.
Share-alike, mais
c'est-à-dire ce que vous faites avec doit être lui-même...
Voilà, mais aujourd'hui, le terme contaminant peut être vu très négativement dans cette période.
Ça l'a été.
Ça l'a été. Alors que les licences libres de type share-alike, c'est-à-dire partage à l'identique, sont la persistance des libertés. Et je vais juste dire aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent qu'on a consacré deux émissions donc à OpenStreetMap et que vous pouvez les retrouver sur causecommune.fm et april.org. Je vous laisse poursuivre.
Voilà, après, si on monte en théorie stratégique, ça veut dire que la souveraineté, ça peut se gagner en étant en hégémonie stratégique, parce qu'on est les plus forts, mais ça peut peut-être aussi se construire en s'assurant que personne n'aura d'hégémonie stratégique et que toute cette famille, alors là, mettez en vrac les communs contributifs, l'open data, le logiciel libre, etc., au fond, baisse la densité d'hégémonie stratégique et donc libère les États, les entreprises ou les citoyens. Et donc, nous essayons en ce moment d'en faire un axe très fort de notre diplomatie numérique, de convaincre l'Europe que c'est un sujet majeur pour un continent qui, malheureusement, n'est quand même pas le berceau des géants industriels du numérique, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, que ça peut être un axe très très important dans la coopération internationale, parce que vous savez très bien que un grand nombre de pays d'Afrique, en ce moment, ils sont contraints de se demander s'ils vont accepter l'Internet Facebook ou l'Internet Huawei ou un Internet trop cher financé par la Banque mondiale. Et on peut leur dire, vous savez, il y a quand même des solutions. Voilà pour cette question des communs, de l'open data et de l'open source.
Et donc, quand vous parlez...
Ah, j'ai dit open source.
Vous avez dit open source, logiciel libre en France, mais c'est pas...
Ah, c'est pas tout à fait pareil.
Ah, je suis bien d'accord, j'allais préciser, mais c'est effectivement pas tout à fait pareil. Il y a une version politique et puis une version, on va dire, plus économique déjà, mais à la limite, peu importe. Tout à l'heure, vous avez, ou c'est peut-être moi qui ai parlé de l'AFD, l'Agence française de développement, et dans votre audition, donc sur la mission d'information, vous avez parlé des partenariats publics. Comment est-ce que vous pourriez nous en dire juste deux mots?
Oui, alors c'est un sujet qu'on travaille en ce moment, et que l'AFD travaille en ce moment, avec mon équipe, parce que c'est évidemment donc une réponse au fameux partenariat public-privé, où on dit que, et dans la même logique, la puissance publique peut aider un commun et déléguer à un commun une partie de la mission de service public. Aujourd'hui, il y a quand même une difficulté, mais ça, du coup, cette question fait réfléchir. La plupart des aides publiques au développement ont été faites dans des systèmes de prêts remboursables. Et donc, le plus facile, c'est quand même de dire au pays, je te finance une autoroute, tu mettras un péage et tu me rembourseras chaque année par un truc. Et donc aujourd'hui, la vraie question, c'est comment on finance quelque chose dont on ne pourra pas tirer des recettes par péage, par enclosure, pour prendre une autre
terme. Par enclosure, voilà.
Et donc, on est en train de chercher des outils financiers, quand même, pour tout dire. Alors, la bonne nouvelle, c'est que parfois, on est en train de parler d'infrastructures qui peuvent être 100 fois moins chères qu'une autoroute. Donc, et là aussi, nous ne cessons de montrer que l'existence d'un cadastre, par exemple, peut changer la donne dans un pays d'une manière incroyable, puisque... pays sans cadastre, il a des paysans qui ont un bout de terre, mais qui ne peuvent pas aller voir une banque pour emprunter.
D'accord.
Donc, ils ne peuvent pas investir. Voilà, je vous passe la question suivante.
Non, mais en tout cas, c'est un sujet intéressant et qu'on va suivre. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez été entre 2015 et 2018, le directeur, donc on va dire un peu de la DSI de l'État, Direction Informatique de l'État, et aussi de la transformation numérique, dans laquelle vous aviez lancé pas mal de choses autour du logiciel libre, des pratiques agiles. Est-ce que vous voulez en dire un mot, justement, de pratiques agiles?
Oui, mais enfin, en un mot, c'est court.
Ouais, je sais.
Mais bon, l'État, au fond, son information... Alors, DSI de l'État, DSI groupe,
oui,
de l'État. Hein, c'est-à-dire
groupe,
que
oui.
L'État, c'est 16 000 ingénieurs, informaticiens, 150 personnes à la DINZIC, c'est 4 milliards de budget 10 millions à la DINZIC. Et donc, on a la, dans le privé, on appelle ça la DSI Corporate, celle qui essaie de donner des règles, des
autres DSI,
des bonnes pratiques aux autres DSI qui ont le pouvoir féodal et financier. Et des équipes, il est dans les autres DSI. Donc, à tous ceux qui disent qu'on n'a pas fait assez en 3 ans, je rappelle qu'on était là pour changer la trajectoire de puissance bien plus puissante que nous. Et donc, dans ces 4 milliards, l'État, la moitié, c'est à peu près la masse salariale des informaticiens, puis il y a 2 milliards d'achats, à peu près 1 milliard de licences en tout genre, et à peu près 1 milliard de très grands projets dingues. Des trucs qui coûtent 80, 500, 800 millions d'euros, qui se font pendant 15 ans, et qui sont en dehors de tout comparable. Parce que quand vous faites le SI de paye d'un million de profs, juste, il y a aucun comparable au monde. Alors, certains éditeurs logiciels vont dire, moi, je sais faire des sites paye, mais ils oublient que toute la fonction de ressources humaines de l'éducation nationale, c'est d'être sûr que le 1er septembre à 8h du mat, 1 million de profs sont devant 13 millions d'élèves, chacun dans la bonne classe. Et donc, aucun logiciel de RH n'a été designé pour ça. Et face à ces projets phares, on a voulu montrer avec mon équipe, qui était plein de gens qui venaient de tous les numériques, en fait, des startups, de Wikipédia, du libre, enfin, Easter Egg et d'autres. On a voulu montrer que la plupart du temps, deux, trois types résolus qui savent exactement la fonction qu'ils sont en train de créer sont capables de faire le minimum viable product, le produit minimum viable, en moins de 6 mois, pour moins de 200 000 euros. Et on l'a fait. Alors, on a pris l'expression start-up d'État. Je sais que ça ne nous a pas valu que des amis, parce que certains. Et donc, je plaide coupable. Désolé, on aurait dû dire je sais pas quoi. On voulait garder de l'équipe start-up la capacité à pivoter, l'autonomie des équipes, l'idée que, quelle que soit la taille d'une équipe, on pouvait faire vaciller le vieux modèle. Mais on a aussi pris, au monde du libre, au monde des communs, beaucoup d'autres valeurs. En tout cas, on a essayé de créer un programme qui lançait des petites équipes, maîtres de ces méthodes agiles, pour faire, avec une seule règle, tu n'auras que 200 000 euros et 6 mois pour faire ton premier produit et avoir un client content. Et si ça marche, on refinance. On l'a fait plus de 90 fois. Certains ont été des grands succès, comme Pix, par exemple. D'autres, on les a arrêtés, mais au moins...
Pix, c'est quoi ?
Pix, c'est... Probablement un certain nombre de vos auditeurs l'ont vu, mais en gros, c'était un TOEFL du numérique pour évaluer ses compétences numériques. Et
d'accord.
Ensuite, un programme d'études. L'éducation nationale l'a fait pour les élèves, et c'est gratuit pour les élèves. Mais maintenant, il y a un tas de grandes entreprises qui s'en servent dans leur DRH, Alliance et d'autres. Et donc, ça permet de financer la suite du développement. Là, on parle de millions d'utilisateurs. Voilà, donc on a créé un incubateur de start-up d'État.
D'accord.
Fait par des fonctionnaires, hein, c'était un programme d'intrapreneurs, mais poussé à suivre, à appliquer à fond ces fameuses méthodes agiles.
Alors ça, c'était pendant que vous étiez à l'INSIC. Vous partez donc en 2018 pour devenir ambassadeur du numérique. Et je pense que vous êtes beaucoup regretté quelque part à l'INSIC, parce qu'après votre départ, il y a eu beaucoup de départs. Certains même ont fait beaucoup de bruit, certains se sont exprimés. Donc aujourd'hui, quel jugement vous portez sur l'évolution de la l'INSIC, et notamment de son nouveau directeur, qui semble pas du tout aller dans votre direction, en tout cas?
Je suis un agent public, donc je ne porte aucun jugement sur mon successeur. J'ai quand même envie de dire que je pense que nous avons... Ce qui est bien, c'est qu'en plus, le nom a changé. Donc, il y a la DINZIC.
Ah, ça s'appelle la DINUM maintenant.
La DINUM, comme ça.
La DINUM,
quand
voilà.
Je dis la DINZIC, on sait de quoi je parle. À la DINZIC, avec effectivement un tas de types homériques, je pense qu'un des départs spectaculaires dont vous parlez, c'est Christian Quest,
le
président d'OpenStreetMap. Nous avions une haute conscience que la transformation numérique, c'était une transformation des couches profondes, c'était une transformation des couches hautes. On a fait France Connect, on a fait des API, des applications, des interfaces de programmation d'applications, on a fait des petits services très rapides et très agiles. Et c'était une transformation organisationnelle et managériale, et c'était une transformation culturelle. Et que il y avait un bloc de cohérence entre une manière de penser, je sais pas, le data center et l'idée qu'il fallait une autonomie des équipes, un respect de l'impératif. Bon. Et donc, quelque part, et je l'assume aussi, on faisait de la politique. Disons, pour rester pudique, que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la DINZIC se comporte plus comme une DSI groupe qui fait son travail de DSI groupe et qui le fait, je ne dis pas le contraire. Et elle est peut-être un peu moins frondeuse. Typiquement, dans le combat pour l'open data, on a porté un combat. On a embêter les administrations, on les a contournés, on les a défiés, on les a provoqués, on les a incités, et on les a aidés aussi, et on leur a monté au moins une centaine de hackathons, et on leur a fait rencontrer des communautés d'utilisateurs, et on les a aidés à prendre leur victoire, mais on portait un agenda politique.
D'accord. Bon, Je comprends bien que votre parole est contrainte. Je voudrais juste rappeler que la DINUM, c'est la Direction Interministérielle du Numérique. Et pour les personnes qui sont intéressées, vous cherchez sur Internet, il y a notamment un article qui parlait de la lettre ouverte de Christian Caisse, dans laquelle il parlait de la feuille de route utilitariste et court-termiste du successeur d'Henri Verdier, et dans laquelle il ne retrouve quasiment aucune des valeurs qu'il avait fait rejoindre Etalab à l'époque. Je parle bien sûr de Christian Caisse. Alors le temps passe vite, on va aborder le dernier sujet, en tout cas, on va rester sur le logiciel libre. Vient d'être publié récemment le rapport de la mission Botorel, dont je rappelle le contexte, en juin 2020, le député Éric Botorel se voit confier par le Premier ministre la conduite d'une mission d'information autour des données publiques et de l'ouverture des codes sources publics. Il y a également des auditions à laquelle l'April a participé et d'autres, un site de consultation publique sur laquelle on pouvait faire des contributions. Il se trouve que l'April a fait 4 contributions, ce sont les 4 qui sont arrivés en tête de la consultation, juste suivi par celle du Conseil national du logiciel libre. Donc on peut dire que c'était un plébiscite sur la consultation en faveur du logiciel libre. Le rapport Botorel vient d'être publié il y a quelques jours pendant les fêtes, dans lequel on va dire qu'il reconnaît évidemment pour nous la reconnaissance des logiciels libres comme des composants stratégiques de nos systèmes d'information. Et par contre, je vais vous demander votre avis général sur le rapport, évidemment, je vais vous demander votre avis général sur le rapport avant de vous poser éventuellement une ou des questions plus précises.
Moi, je le trouve très positif. Et puisque vous avez fait allusion au fait qu'effectivement, il y a eu un petit changement de climat, je pense qu'on reprend le combat là où il était un peu gelé il y a 2 ans. Donc à la fois une repoussée en avant de l'open data, de la transparence, du logiciel libre. Après, il faut avoir, quand vous dites que le logiciel libre, c'est une composante du SI de l'État, est-ce que vous voulez dire que le SI de l'État doit être entièrement open source, ce qui a été ma politique?
Pas open source, le logiciel libre.
Oui, non, en tout cas, que tout le code doit être ouvert et partagé. Ou est-ce que vous voulez dire qu'il doit prendre des logiciels libres de l'extérieur? Et si oui, est-ce que c'est ceux des éditeurs ou s'appuyer sur les communs?
Alors, je ne sais pas si on va avoir le temps d'aborder ce sujet, je vois à quoi vous faites référence.
Tout n'est pas dit simplement par la phrase que vous avez citée. Donc il reprend tout ça, il rappelle que pour que ça réussisse, il y a aussi des enjeux RH assez considérables, parce que c'est quand même plutôt un rapport à l'origine sur la donnée.
Oui.
Un des sujets où j'aurais aimé réussir à aller plus loin, c'est introduire une culture du pilotage par la donnée. Les Anglais disent les data-driven policy, les politiques publiques fondées sur la donnée. Quand vous voyez le nombre de choses qui sont faites sur des intuitions de cabinet ministériel, sur des approximations...
Vous parlez de la situation actuelle sanitaire?
Partout. Non, franchement, alors là, je parle de tous les pays d'Europe et depuis des décennies. Je ne vise personne. Ou je vise tout le monde. Non, mais on n'a pas... la haute fonction publique qui est pétrie de droit et de sciences administratives n'a pas une très grande culture scientifique et encore moins une culture du pilotage par les faits, Je me rappelle un jour, je discutais avec les douanes, ils avaient fait un SI incroyable pour décider quels bateaux, quels avions, quels camions ils allaient contrôler dans les aéroports, les ports et les machins. Ça avait coûté un paquet de millions d'euros. Et je me rends compte en discutant avec eux qu'ils n'avaient pas pensé à mettre la voie de retour pour éduquer le modèle par le retour des résultats obtenus par les tests réels.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'ils avaient mis une intelligence incroyable pour deviner quel camion on allait contrôler, mais rien pour nourrir cette intelligence du retour d'expérience. Ce genre de problème-là, qu'on voit partout dans l'État, c'est quelque chose que j'aurais aimé pousser plus, et la mission Botorel pose parfaitement qu'on va vraiment avoir un problème RH. Et puis, elle reprend des sujets qui étaient légèrement en friche, qui ne sont ni l'open data, ni le logiciel libre, qui sont les données d'intérêt général, c'est-à-dire quand l'État aura fini d'ouvrir toutes les données qui lui appartiennent à lui, est-ce qu'il n'y a pas des données qui sont dans le secteur privé, mais qui sont tellement d'intérêt général qu'elles doivent être traitées comme celles de l'État? On voit bien que, par exemple, dans le transport, vous ne piloterez pas un grand système de transport si vous n'avez pas les données des trains, des métros, des taxis, des autocars, des voitures, des Vélib, des Autolib, des City Scoots et tout ça. Il les faut toutes ou alors vous n'en avez aucune en vrai. Et donc si on veut travailler et penser et améliorer le système de transport, il faut toutes les données, même celles du privé. Donc ça c'est les données d'intérêt général. Il reprend et il avance dans la question de l'accès de la recherche aux données de l'État, parce que on comprend bien qu'il y a des données qui sont tellement personnelles ou tellement stratégiques, à commencer par les données de santé, qu'on ne va pas les mettre en open data. Mais est-ce que pour autant, c'est une raison...
On ne va pas les mettre non plus chez Microsoft.
Et on ne va pas poser non plus chez Microsoft. Mais est-ce que c'est une raison pour que la recherche européenne prenne des années de retard dans la lutte contre le cancer, pendant que d'autres pays, eux, ont moins de pudeur et tapent les données? Est-ce qu'on ne peut pas quand même construire un cadre pour la recherche, protecteur des libertés fondamentales, etc.? Et là encore, de nouveau, plus on connaît l'informatique, plus on sait faire un cadre protecteur. C'est pas que du droit. Vous pouvez faire des échanges de données asymétriques, provisoires, tracés. On peut inventer beaucoup de choses pour mettre des sécurités et permettre quand même de faire de la recherche. Donc le rapport Botorel, j'en pense le plus grand bien et j'espère qu'il va être mis en œuvre, ce que le Premier ministre a promis, puisqu'il l'a reçu et il a dit qu'il reprenait l'intégralité des conclusions et qu'il allait toutes les mettre en œuvre. Donc,
comme le Président avait promis sur les je ne sais plus combien de la Convention citoyenne.
Hein. Voilà, exactement.
Exactement. Ah ben, on est mal barré alors, excusez-moi. Non, justement, j'ai une question. Il nous reste très peu de temps, donc une petite. Bah, justement, oui. Ce que dit le rapport, à un moment, que se passera-t-il après le rapport ? Donc là, je cite, hein, en l'état actuel des choses, la mission craint que ces recommandations ne soient pas portées et suivies. Donc la question, vous, en tant qu'ambassadeur du numérique, est-ce que vous avez déjà des informations ? Est-ce que vous savez quel est le planning d'annonce, justement, de ce que va reprendre le Premier ministre ou même le Président de la République ?
Je pense qu'il y aura des annonces en janvier. Je pense que parce qu'il y a quelques petites mesures d'ordre législatif seront passées dans les 6 mois. Et les annonces opérationnelles, organisationnelles, je pense qu'on les entendra en janvier. Mais plutôt, on a reçu le rapport
très récemment, pour
le 20 décembre. Alors bon,
voilà. Il faut. Alors, une des recommandations de ce rapport est la création d'une mission logiciel libre à l'interministériel. Hein, donc peut-être au sein de la DINUM, alors que nous, l'April, on portait ça à l'extérieur de la DINUM. Hein, pour de différentes raisons. Donc cette recommandation fait écho à la récente stratégie logicielle libre de la Commission européenne qui a été publiée en octobre 2020. Que pensez-vous de cette recommandation et en fait, quelles sont pour vous les conditions essentielles pour qu'elle puisse vraiment produire des effets utiles par rapport au logiciel libre et données publiques ?
Moi, j'ai envie de dire que la question du logiciel libre, vos communautés, vous l'avez parfois mal posée parce que c'est monté trop vite vers l'idéologie et pas assez vers la conduite du changement et les conditions de possibilité. J'ai envie de dire aussi que pour pouvoir tirer parti d'un logiciel libre, c'est quand même mieux d'avoir des développeurs. L'État avait perdu l'habitude de faire lui-même, mais dans des proportions invraisemblables. Je pense à un très grand ministère régalien, dont la DSI...
ministère de la Défense.
Non. Compte 1200 personnes, dont 6 développeurs. Tous les autres servent à organiser de la sous-traitance. Donc eux, si vous leur donnez un logiciel libre pas fini, ils le finiront pas eux-mêmes. donc ils peuvent éventuellement acheter une solution libre, mais ils seront tout aussi clients passifs et otages de leurs prestataires que s'ils avaient acheté une solution propriétaire.
Donc vous plaidez pour l'internalisation.
Donc je plaide, comme j'ai essayé de le faire, pour une espèce de mixte qui vise la montée en capacité de l'administration, son dialogue harmonieux avec les communautés, un peu de faire soi-même, un peu d'achat, un peu de sous-traitance, un peu de partenariat avec le libre, et on monte tous ensemble en écosystème. Donc, est-ce que ça peut être fait à la DINUM si on fait abstraction des uns et des autres, etc. Formellement, l'intérêt quand même de la DINUM, c'est que par construction, elle est interministérielle, et que par construction, justement, elle n'est pas héritière de l'héritage des très grands systèmes, parce que est-ce que vous savez aussi à quel point l'État tourne dans des infrastructures qu'on a commencé à fabriquer il y a 40 ans. Il y a encore de vaillants serveurs bulles qui calculent votre impôt dans des langages propriétaires inventés par les impôts il y a 40 ans. Donc la plupart des autres ministères, quand on leur pose une question, ils pensent d'abord à leur legacy, à cet héritage. Quand est-ce qu'il va péter ? Comment ne pas le... Et donc, moi, je trouve qu'il n'est pas impossible que cette mission soit posée en centrale, en interministériel, à Matignon, donc à la DINUM. Après, qu'est-ce qu'on attend d'elle ? Est-ce que c'est...
Et quels moyens aussi, surtout humains ? Parce qu'aujourd'hui, à la DINUM, il y a le référent logiciel libre, mais il est un peu tout... Il fait beaucoup de choses, et on le salue, Bastien Guéry.
Ouais. Pour tout dire, j'ai beaucoup aimé. Dans sa chronique, Marie-Odile a dit tout à l'heure qu'il y avait des collectivités qui, plutôt que de financer des bénéfices à Seattle, investissaient sur des compétences sur le territoire. Un des plus grands problèmes, c'est que l'État ne considère pas que financer un commun, c'est investir. C'est une dépense pour lui. En revanche, il considère que acheter un truc pourri, c'est investir. Donc aujourd'hui, on a ce problème. Et effectivement, honnêtement, plus que de savoir s'il y a une mission blabla et où est-ce qu'on la pose. Est-ce qu'on est capable de trouver quelques dizaines de millions d'euros pour soutenir des logiciels qui sont vitaux pour notre souveraineté ? C'est ça la question. Et sans qu'on ait l'impression qu'un rigolo a donné de l'argent à fond perdu à ses copains. Elle est là la question. Est-ce qu'on est capable de prendre la décision stratégique de dire « j'ai besoin qu'existe Firefox, Ubuntu et ce que vous voulez » et donc je mets du pognon là-dessus. La France vient aider la pérennité de ses communs. Comme on ne le fait pas, vous avez vu aussi, nos amis de Framasoft ont été un peu vénères pendant le confinement en disant « les mecs, on ne va quand même pas faire tourner toute l'éducation nationale sur nos 3 machines ». Ils avaient raison de dire ça.
Ah oui.
Donc la question, en fait, d'abord, il faut une mission, mais
est-ce qu'on est capable de poser une stratégie d'investissement pérenne et durable pour construire enfin une sorte de résilience, quelque chose qui passe l'échelle, quoi. Donc après, où vous le posez, honnêtement, moi, je m'en fiche un peu. Ouais, Bastien fait un boulot extraordinaire, l'équipe fait un boulot extraordinaire, mais avec peu de moyens et notamment pas de chéquier.
Dernière question, mais je vous laisserai aussi le mot de la fin, ça sera sans doute rapide. Thierry Noisette dans ZDNet, donc journaliste qui connaît bien le logiciel libre pour le suivre depuis de nombreuses années, conclut son article qui portait sur le rapport Botorel 8 ans déjà après la circulaire Hero sur le bon usage du logiciel libre dans l'administration qui date de 2012, 4 ans après la loi d'Axel Le Maire pour une république numérique donc de 2016, faisons un vœu pour 2021 et si l'État et les politiques accéléraient enfin, est-ce que vous y croyez? Bon, la réponse va être forcément oui, mais 2021, ça va être l'année véritablement de l'accélération.
Moi, je pense qu'il va falloir plus qu'une décision portant seulement sur le logiciel libre pour obtenir une telle accélération. Honnêtement, je le redis, pour moi, il y a un mixte. Est-ce qu'on se donne une... D'abord, avant, donc j'ai parlé de la nécessité d'avoir cette culture du développeur, de savoir faire soi-même, avec ce souci instinctif d'autonomie stratégique qu'a le vrai développeur, parce qu'il ne veut pas dépendre d'un gars qui est tout loin, qui l'a jamais vu, et attendre la réponse d'un autre, quoi. Mais au-delà de ça, ça voudra dire qu'il faudra reconnaître aussi que l'informatique est une fonction stratégique, et pas une fonction support, et qu'elle se mêle de choix politiques, et que... Donc je pense qu'on va faire des progrès en 2021, mais je pense qu'il y a...
Il y a besoin de quelque chose de plus profond.
Il y a besoin de penser la question à la maille de la transformation de l'État, de la transformation de l'action publique, d'une transformation stratégique, organisationnelle, managériale. Et que non, il ne suffit pas de nommer une mission logiciel libre, ni même de lui donner 10 millions d'euros d'investissement.
Oui, ça ne suffira pas. Bon, en tout cas, je pense que les gens qui nous écoutent sont convaincus que vous participerez à cet effort. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot de conclusion ou ça vous paraît bien comme ça?
Non, j'ai été très heureux de vous rencontrer enfin parce que finalement, on s'était pas croisés.
On s'est croisés rarement, mais là, en fait, on est masqués en plus. On s'était croisés à l'époque de la DINSIC et non, même à l'époque de Capgemini Digital.
Oui.
Il y a bien longtemps, dans une grande réunion autour du Forum mondial du logiciel libre, je crois que ça s'appelait comme ça.
Oh là là, mon Dieu.
Mais bon, on va pas en reparler parce que ça pourrait sortir des zombies.
Que d'histoire,
exactement. En tout cas, c'était un grand plaisir et je pense qu'on aura l'occasion de reparler et j'espère que vous reviendrez pour approfondir certains points et l'évolution évidemment par rapport à la mission Botorel et autres. Donc c'était Henri Verdier, ambassadeur pour le numérique. Donc je vous remercie.